Le journal de François Comte.
Madame, monsieur, bonsoir. La nouvelle organisation de l'Office cantonal jurassien des poursuites et faillites se met en place. La réforme est entrée en vigueur au début du mois, mais elle n'est toutefois pas encore pleinement opérationnelle. En tennis, Belinda Bencic jouera les demi-finales du tournoi de Wimbledon. La Saint-Galloise s'est qualifiée aujourd'hui au détriment de la Russe Mira Andreeva. Belinda Bencic s'est imposée en 2-7, 7-6, 7-6. En cyclisme, Remco Evenepoel a remporté aujourd'hui le premier contre-la-montre du Tour de France. Le Belge s'est imposé devant Tadej Pogacar. Le Slovène s'empare du coup du maillot jaune. Météo, un temps bien ensoleillé. Demain, mis à part quelques cumulus de beau temps sur les reliefs, les températures se situeront entre 16 et 20 degrés maximum. Un temps similaire est prévu vendredi. L'Office cantonal jurassien des poursuites et faillites a lancé sa MUE. Sa nouvelle organisation est officiellement entrée en vigueur au début du mois. Elle n'est toutefois pas encore pleinement opérationnelle dans l'attente du déménagement dans ses nouveaux locaux de Port-en-Truy. L'opération devrait être achevée d'ici mars à juillet 2026. D'ici là, l'Office cantonal des poursuites et faillites continue à fonctionner quasiment comme avant. La nouvelle organisation prévoit une centralisation à Port-en-Truy avec la mise en place de permanences par district un jour par semaine. La co-chef de l'Office jurassien des poursuites et faillites explique à quoi vont servir les antennes en question. Mylène Jolidon.
Principalement pour l'audition des débiteurs, c'est ce qui a été voulu par le Parlement. Donc l'idée n'était pas de prétériter des personnes qui sont déjà dans une situation de précarité. Donc le principal but de ces permanences, ça sera effectivement de permettre aux débiteurs des districts de ne pas devoir effectuer des trop gros déplacements pour pouvoir avoir un contact direct avec des collaborateurs de l'Office des poursuites et faillites.
Et pour le reste, il faudra alors soit se déplacer à Port-en-Truy, soit faire ça depuis chez soi via l'informatique.
Alors effectivement, donc il y a toujours la possibilité, notamment pour les extraits de poursuite, qui est la plus grosse prestation délivrée par l'Office des poursuites, de passer par le guichet virtuel ou également d'envoyer un courrier électronique avec une copie de sa pièce d'identité pour se voir délivrer un extrait. Et puis sinon, il y a toujours la possibilité également de se déplacer ou le courrier postal qui fonctionne encore toujours également.
La future permanence de Moutier de l'Office cantonal des poursuites et faillites sera basée au guichet unique. La localisation des antennes de Delémont et de Seignelay-Léger doit encore être précisé. Les chemins de fer du Jura sont victimes d'une arnaque sur leur page Facebook. Une fausse offre promotionnelle prétendument liée à un anniversaire des CJ circule et incite les internautes à fournir leurs informations personnelles et bancaires. La compagnie ferroviaire indique cet après-midi que cette offre frauduleuse n'a aucun lien avec l'entreprise. Il s'agit d'une tentative de phishing destinée à voler des données bancaires, selon les chemins de fer du Jura, qui appelle le public à la plus grande prudence. Oiseaux et autres chauves-souris de la Haute-Borne sont actuellement passés au crible par des spécialistes de la nature. Une étude d'impact sur le projet de parc éolien porté par les SIG, les services industriels de Genève, est menée sur place depuis plusieurs mois. Les ornithologues font notamment des relevés réguliers à l'aide d'enregistreurs sonores dans les forêts environnantes. Ingénieurs en gestion de la nature, ornithologues et chefs de projet se sont retrouvés au petit matin pour une visite du site afin de présenter leur travail. Jérémy Pignard les a accompagnés en forêt. Reportage.
Ils ont mis la forêt sur écoute pour établir qui habite là, notamment les oiseaux de grande taille, les plus inquiétés par les éoliennes. Albert Bassin, ornithologue, les piste depuis des mois.
Les espèces de grande taille, c'est surtout des rapaces. Et ici, c'est principalement le milan royal, la buse variable. Et puis les rapaces, ici, on va mieux les détecter en forêt quand ils crient que de visu. Donc c'est pour ça qu'on met des enregistreurs.
Une fois une espèce détectée, les spécialistes tentent d'évaluer les conséquences d'une potentielle éolienne sur sa population. Et il faut accepter que le risque zéro n'existe pas, explique Albert Bassin.
Pour le Milan Royal, tous les jours ici, dans la Haute-Borne, on est entre 10 et 20 Milan Royaux qui vont venir chasser sur le périmètre. Donc cette espèce-là, c'est impossible d'exclure totalement l'impact. Ce qu'on va essayer de voir, c'est est-ce qu'il y a un endroit, un couloir impactant, ce qui n'est pas le cas pour le moment.
On tente sinon d'éviter ou de limiter le conflit entre l'éolienne et la faune. Guillaume Favre de Thierran, chef de projet pour le bureau Enova, qui porte le projet pour les SIG, évoque les adaptations possibles.
L'idée, c'est de pouvoir brider les machines. Donc on a tout un système qui permet d'arrêter les machines, de les programmer pour qu'elles s'arrêtent. Et donc, je dirais maintenir les espèces, les sauvegarder également pour les chauves-souris.
Mais c'est pas parce qu'on trouve une espèce particulière qu'on dit on ne peut absolument pas mettre d'éoliennes à cet endroit.
Non, on peut pas dire ça.
Ça pourrait arriver, hein. Par exemple, si il y avait connaissance d'un site de nidification d'aigles à 500 mètres d'ici, le projet serait très très embêté. Parce que là, on a des distances qui ont été définies par la station ornithologique suisse. Si on se trouve à moins de 3 km, c'est plutôt à exclure.
Emmanuel Comtesse est ingénieur en gestion de la nature et évalue aussi l'impact sur les chauves-souris. Le projet des SIG prévoit notamment une éolienne implantée en forêt, ce qui serait une première en Suisse et nécessite une attention toute particulière.
Quand on va mettre l'éolienne en forêt, on va défricher une certaine surface, on va créer des lisières forestières et les chauves-souris se déplacent souvent le long des lisières forestières au risque d'en attirer. D'autre part, il y a des espèces qui vivent en forêt, donc qui occupent des cavités à pic dans les arbres. Et puis si ces espaces disparaissent et qu'on a une espèce particulière qui s'y trouve, on aurait une problématique.
Toutes ces données seront compilées, étudiées à partir de cet automne pour fournir une étude d'impact qui vise à protéger les espèces. Guillaume Favre de Thierran assure que les promoteurs sont sensibles à ces questions.
Oui, à l'issue de cette année d'investigation sur le site, on pourra tout à fait cartographier, identifier plus clairement les sensibilités, les zones du périmètre qui devront être exclues ou sur lesquelles il faudra prendre des précautions particulières. Et donc effectivement, s'il y a des zones, on va dire no-go, où les sensibilités sont trop fortes, on est tout à fait prêt à exclure ces zones-là.
Une fois toutes les contraintes législatives, exigences cantonales et communales appliquées, la possible implantation d'éoliennes se résume actuellement à 5 petites zones à la Haute-Borne qui pourraient possiblement être encore réduites par ces études d'impact. Il est aujourd'hui encore trop tôt pour dire si des éoliennes verront le jour sur les hauteurs de Delémont.
Et 3 mois de mesures pour le vent et l'activité des chauves-souris avait également été installée il y a plus d'un an. Les différentes données seront étudiées à partir de l'automne prochain. Selon les SIG, un éventuel parc opérationnel ne verrait pas le jour avant 2033-2034. 3 centres fédéraux pour requérants d'asile vont rouvrir leurs portes dans les prochaines semaines. Le secrétariat d'État aux migrations l'a annoncé aujourd'hui. La mesure a pour but de répondre à l'augmentation saisonnière des demandes. La caserne de Moudon, celle de Dubendorf et le cantonnement d'Aigenthal dans le canton de Lucerne sont concernés. La Confédération avait fermé 9 centres, dont celui de Bure durant l'hiver en raison de la baisse des demandes. Toujours dans l'actualité nationale, les organisateurs du 78e Festival du film de Locarno ont levé le voile sur le programme de la manifestation hier à Zurich. Et aujourd'hui, à Milan, quelques 220 films seront à l'affiche, dont 14 sur la célèbre Piazza Grande de la cité tessinoise. 17 longs-métrages seront en compétition pour le Léopard d'Or, dont le lac du Neuchâtelois Fabrice Aragno. Le thème du conflit a été choisi pour le rendez-vous cinématographique tessinois. La 78e édition du Festival du film de Locarno aura lieu du 6 au 16 août prochain. À l'étranger, l'incendie qui a atteint les quartiers nord de Marseille hier, après avoir parcouru 750 hectares, est désormais fixé. La préfecture des Bouches-du-Rhône a fait cette annonce cet après-midi. Elle a toutefois précisé que les interventions des pompiers sur place n'étaient pas terminées. L'abbé Pierre est visé par 12 nouvelles accusations de violences sexuelles un an après les premières révélations le concernant. 7 concernent des personnes mineures au moment des faits, selon un rapport du cabinet spécialisé EGAE publié aujourd'hui. L'abbé Pierre, décédé en 2007, est désormais visé par 45 accusations de violences sexuelles. On passe au sport. En tennis, Belinda Bencic écrit une des plus belles pages de sa carrière. La Saint-Galloise s'est qualifiée aujourd'hui pour les demi-finales de Wimbledon. Elle a dominé la jeune russe Mira Andreeva en 2 manches, 7-6-7-5. Belinda Bencic se hisse ainsi pour la première fois de sa carrière dans le dernier carré du tournoi londonien, Alexandre Rossier.
À 28 ans, la jeune maman disputera sa deuxième demi-finale en Grand Chelem. Elle avait perdu dans le dernier carré de l'US Open en 2019. Belinda Bencic a livré une performance de choix pour éliminer la russe de 18 ans. Cette dernière s'est montrée très offensive. Son agressivité a toutefois parfois manqué de maîtrise. Et Mira Andreeva a offert plusieurs points à la Saint-Galloise. Bencic s'est montrée solide et surtout patiente lors des points important dans les jeux décisifs en particulier. Son seul gros moment de faiblesse aurait été à 5-4 en sa faveur dans le dernier set quand elle a été breakée. Là encore, elle s'est rapidement mobilisée pour éteindre la fougue de la Russe.
Linda Bencic défiera la Polonaise Iga Świątek en demi-finale. La Polonaise a battu aujourd'hui la Russe Lyudmila Samsonova en 2-7, 6-2, 7-5. En football, Alain Virginius reste à Young Boys, l'attaquant français de 22 ans qui était prêté au club bernois de Super League la saison passée. S'est engagé dans la capitale jusqu'en 2029. Il appartenait à Lille, club de Ligue 1 française. En cyclisme, la 5e étape du Tour de France était très attendue et elle a tenu ses promesses. Elle se présentait sous la forme d'un contre-la-montre de 33 km à Caen. Le Belge Remco Evenepoel s'est imposé dans son exercice de prédilection, mais il n'a pas réussi à s'emparer du maillot jaune qui est revenu au Slovène Tadej Pogačar. Alexandre Rosset, on vous retrouve pour le compte-rendu de l'étape du jour.
Champion olympique et double champion du monde en titre de la discipline, Remco Evenepoel a mis tout le monde d'accord sur un parcours entièrement plat, taillé sur mesure pour lui. Pour son profil aérodynamique, le Belge a dominé l'affaire à très exactement 54 km/h de moyenne. Il a repoussé son dauphin, le Slovène Tadej Pogačar, à 16 secondes, un écart insuffisant pour lui permettre de s'emparer de la tunique jaune. C'est bel et bien Tadej Pogačar qui revêt le maillot de leader au terme de ce rendez-vous de vérité, 42 secondes devant Remco Evenepoel. Le duel des titans a eu lieu, mais Jonas Vingegaard en a été écarté. Le Danois est le grand battu du jour, il a concédé 1 minute 22 à Remco Evenepoel. Il n'aura pas trop, des étapes de montagne pour tenter de combler cet handicap.
Et la 6e étape du Tour de France conduira les coureurs de Bayeux à Viromandie demain sur 201 km.